Bonjour, bonjour. Très heureux d'accueillir les auditeurs et les auditrices de Radio Galère et la fine équipe de Comaguerre. Donc, je commence par Clélie, qui est dans la cabine, que je remercie pour son intervention, qui remplace Roselyne avec tout le talent nécessaire. Et puis Habib, qui est là aussi, que je remercie de sa présence et de sa fidélité.
Oui.
Alors, j'avais décidé aujourd'hui de vous parler, alors comme Marseille a quand même été au cœur de l'actualité nationale, internationale, la semaine écoulée, à l'occasion, vous le savez, je n'insiste pas sur le thème donc, du démarrage de l'aventure olympique qui va se conclure donc, à la fin du mois de juillet et à Paris et un peu ailleurs, en particulier à Marseille, de vous donner une impression du simple passant que j'étais. Alors pourquoi j'étais un simple passant? Non pas parce que j'avais eu un reportage qui m'avait été commandé par je ne sais quelle chaîne officielle, mais parce que j'ai des petits-enfants qui, pris dans ce tourbillon d'informations, étaient à Marseille et voulaient voir. Nous fûmes donc voir. Et ce que je vais vous décrire, ce n'est pas exactement ce qui a été décrit sur les journaux télévisés, dans les éditions spéciales de ceci ou cela. C'est des choses qui sont passées un peu inaperçues et qui pourtant ont énormément de sens. D'une part, ce que j'ai vu, je vais commencer par ça, parce que ça a été relativement peu aperçu, c'est qu'il y avait en rade de Marseille, donc le mercredi 8 mai, il y est resté le lendemain, un navire porte-container de la CMA-CGM, ce grand armement international, qui avait été déguisé en banderole publicitaire. Alors que j'explique le terme déguisé en banderole publicitaire, ce porte-container est un bateau dans sa catégorie de taille moyenne, mais qui fait quand même 360 ou 70 mètres de long, qui porte une quinzaine de milliers de boîtes, comme on dit dans le vocabulaire du monde, et qui avait écrit sur toute la longueur de ces containers, donc entassés, empontés, il avait écrit JO 2024, Paris, etc. Mais ça veut dire qu'il y avait sur ces containers des lettres qui faisaient entre 15 et 20 mètres de haut et qui s'étendaient sur 300 mètres de large. C'est-à-dire que c'était la plus belle banderole de l'histoire des manifestations dans la République française. Imaginez une banderole de 300 mètres de long sur 15 mètres de large. Bon, ça ne se fait pas. Ben, il fallait avoir les moyens donc, de cette compagnie et son entre-gens et son rôle que je vais décrire pour se permettre ça. Alors, ça a été à la limite relativement discret. Le bateau est resté en rade, mais on le voyait donc même, Clélie m'a confirmé, on le voyait depuis Niolan, on le voyait certainement depuis la Pointe Rouge, enfin on le voyait de partout. Oui, c'est quand même un gros bateau, il était au large. Moi je le voyais depuis la terrasse de la cathédrale où il était tout à fait sous nos yeux. Et puis il est resté là quasiment immobile à attendre le reste de l'activité, c'est-à-dire l'arrivée du Belém, tous les petits bateaux qui tournaient autour, etc. etc. Bon. Donc ça c'était pour dire, voilà le côté officiel, et ça c'était gratuit, pas pour la compagnie CMA, parce qu'un bateau de cette taille-là qui s'arrête de travailler, puisqu'un bateau à l'ancre, ça ne travaille pas pour un armateur. Pour un armateur, un bateau qui travaille, c'est un bateau qui bouge. Parce qu'un armateur, ça vend du transport. Ça ne vend pas des séjours en Boraki. Donc, c'était deux jours de perdu pour les recettes de la compagnie. Vous allez dire, mais quel sacrifice. Merci la CMA. Oui, mais vous apprenez par ailleurs que la CMA est le responsable de la logistique pour la totalité de l'opération olympique. C'est-à-dire que tous les transports qui auront lieu, que ce soit du matériel, des autobus, tout ce qu'on peut imaginer, les sponsors, enfin tout ce qui se passera pour alimenter les bars, les restaurants, etc. pendant cette période-là, passeront par la filiale de la CMA qui s'appelle CEVA, qui est une filiale logistique qui a un millier de salariés. Donc la CMA a le monopole de la logistique pour les Jeux Olympiques et toute la période qui s'y... Voilà. Donc, vous pouvez imaginer que les deux jours de perdu dans la recette de la compagnie maritime seront au-delà de ce qu'on peut imaginer compensés par l'activité donc, de logisticien officiel des Jeux Olympiques. Et pour bien expliquer pourquoi cette compagnie a fait ce geste, elle a fait ce geste parce qu'il y en a un autre qui est passé plus ou moins inaperçu, c'est qu'au moment même où commençait cette folle journée du 8 mai donc, à Marseille, s'inaugurait dans un lieu qui est connu à Marseille, à la Pointe Rouge, dans un parc où est installée l'École nationale supérieure de la marine marchande, un centre de formation et d'innovation. Je souligne les termes, c'est pas moi qui les ai choisis, centre de formation et d'innovation de la fameuse CMA-CGM, Donc, ça, qui est installé donc, dans l'espèce de parc, l'ensemble où est installée l'École nationale supérieure de marine marchande, vous savez, qui est chargée de former tous les officiers mécaniciens, les officiers de bord, etc., de la marine nationale, de la marine française de commerce. Hein. Et donc, au même endroit, dans ce parc, autour d'un vieux bâtiment qui existe là depuis longtemps, la CMA a installé un centre de formation et d'innovation avec des salles de cours, des séminaires, avec le concours de logisticiens pointus, une informatique très très affinée, de l'intelligence artificielle à tous les niveaux, j'allais dans tous les ascenseurs et dans toutes les salles de classe, pour dire qu'elle va là d'abord former son propre personnel. Et évidemment, elle a du personnel à former, puisque pour vous donner un ordre de grandeur, la CMA-CGM, donc troisième armateur mondial pour le transport des containers, a 400 navires en commande. Bon. Ce qui veut dire que M. Rodolphe Saadé, qui est donc le PDG de cette compagnie, est aujourd'hui la cinquième fortune française.
C'est d'origine syrien.
Voilà, un Syrien, voilà, mis à la porte par le régime syrien, comme latifoundière, donc surexploitant la population agricole, qui s'était réfugié au Liban. Du Liban, il a commencé sa carrière d'amateur, et puis elle s'est poursuivie en France dans des conditions que j'ai déjà racontées, mais qui seraient trop longues de redévelopper. Donc voilà, c'était ça. Donc vous voyez un événement, ça a l'air de rien, vous avez cette belle affiche, c'est assez étonnant, et à ma connaissance, et c'est ce qu'a dit la CMA, c'est la première fois qu'un navire porte-container de 380 mètres servait d'enseigne publicitaire. Et c'est effectivement une excellente idée. Mais je pense qu'il a fallu quand même la journée pour peindre tout ça. Alors il avait fait escale à Fosse la veille, on avait dû lancer les peintres, etc., qui ont dû faire une très très belle journée. Et cette idée est une idée très très, très astucieuse. Bon, bravo, bravo au marketing. On sait à quoi, évidemment, à quoi elle correspond. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que M. Macron est venu à Marseille. Apparemment, il s'est présenté à je ne sais quel moment sur le Vieux-Port, au moment où tout le monde attendait le Belém, et il aurait été hué. J'y étais, je n'ai pas entendu, mais ça ne prouve rien. Oui, mais par contre, là où il devait aller, c'était le matin du 8, aller à l'inauguration de ce fameux centre de formation intelligent et artificiel de la CMA-CGM à la Pointe-Rouge, aux côtés donc, de l'École nationale supérieure de la marine. C'est-à-dire que vous avez un président de la République qui traite, comme elle se peut, une pauvre École nationale supérieure de la marine marchande qui vit difficilement, qui a des petits moyens comme toutes les structures d'éducation nationale. Et à côté, vous avez un bâtiment splendide, tout neuf, plein d'intelligence artificielle qui est destiné à abriter la formation de la CMA-CGM. Tout un symbole. Et c'est là qu'il importait que ce monsieur Macron fût. Ouais. Et il y était. Voilà donc un premier aspect, et ça induit un rapport un peu particulier à ce que l'aspect gratuit de l'effet des festivités, ce que la population a vécu, les très nombreux Marseillais, alors on a dit 130 000, 140 000, 150 000 qui étaient autour du Vieux-Port en attendant le Belém, ils venaient là parce que d'abord c'était gratuit, tout était gratuit, le spectacle de la patrouille de France, l'arrivée du Belém, le concert qui était gratuit, donc le concert de soprano et de son compère Alonso, donc tout ça justifiait que le peuple soit là, il payait rien et donc c'était gratuit, et c'est bien un concert de soprano gratuit, c'est pas si courant à tel point qu'à un moment donné, je le dis aussi puisque le concert de soprano était annoncé pour commencer à 20h ce qui était au 21h par contre, ce qui était au programme, le Belém était taqué depuis en gros une bonne heure et demie, vers 19h30, tout s'était passé normalement avec l'arrivée de la flamme, etc. Bon, tout ça vous avez vu. Et puis à un moment donné, il nous a été annoncé, nous, publics qui étions là en attente, que c'était pas possible de commencer, il y avait trop de monde. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que le service de sécurité avait verrouillé les entrées au secteur du Vieux-Port parce que la quantité de public qui venait pour le spectacle gratuit de soprano dépassait très très largement la quantité de personnes qui étaient déjà à l'intérieur des grilles, enfin du dispositif de sécurité. Donc il fallait évacuer une partie des spectateurs qui étaient venus avec leurs petits-enfants, ce qui fut mon cas, pour que, en fait, le concert puisse avoir lieu avec la nouvelle fournée qu'on avait laissée rentrer. Autrement, l'espace était trop petit. L'espace était donc les deux rives du Vieux-Port et le quai, ce qu'on appelle le quai de la Fraternité. Ce qui fait que le concert de soprano, au lieu de commencer à 21h, a commencé à 22h45. Et donc tous les gens que j'ai vus moi, en sortant étaient des gens qui étaient venus pour le concert, parce qu'effectivement, c'est ça la gratuité. Vous dites soprano en concert à Marseille, vous savez que soprano est comorien d'origine, vous savez qu'il y a 80 000 comoriens à Marseille, estimation. Bon, rien que ça, et puis il est très connu, il est populaire, certains le considèrent comme un artiste de très très bonne qualité, donc c'était pas une surprise. Et vous offrez un concert gratuit, et là vous avez une foule énorme. Bon. Et donc c'est ça le rapport entre la gratuité et l'argent. L'argent est derrière, compte les points, mais la gratuité est là pour attirer le public et pour faire parler. Ah, c'était déjà une réussite. Et puis, il y a eu évidemment le Bélème, ça vous avez tous vu. Et puis, il y a eu une espèce d'annonce du Bélème, c'est-à-dire la possibilité de faire une comparaison avec un autre navire de la même taille et aux mêmes fonctions. Car il se trouve que dès le 5 mai donc de cette année, s'était installé donc sur le quai où allait stationner le Bélème après la journée du 8, donc le 9, un navire école de la marine nationale colombienne qui s'appelle l'Arc Gloria, qui est lui aussi un trois-mâts qui sert de navire école et qui est en train de faire une espèce de tour du monde. Alors c'est un classique dans les marines de guerre, c'est-à-dire que les jeunes officiers qui sortent en France de l'école navale ou de choses comme ça, quand ils ont fini leur formation, ont droit à une espèce de tour du monde sur le bateau. Alors en France, c'était la Jeanne d'Arc qui traditionnellement faisait ce travail-là. Là, ils ont ce voilier école qui est chargé de faire un tour du monde pour montrer aux nouveaux diplômés de la marine nationale colombienne ce que c'est que le monde, et pour servir en même temps d'ambassadeur, d'illustration de la qualité colombienne. Alors, l'Arc Gloria est beaucoup plus jeune, puisqu'il est de 1967, que le Bélème, donc il a 100 ans de moins. C'est un navire en acier, en excellent état. L'équipage était très très bien, l'ambassadeur de Colombie à Paris était venu pour l'accueillir, et donc on pouvait visiter l'Arc Gloria. Avec un très bon accueil, des images de la Colombie, enfin une image très positive, c'est-à-dire ce genre de bateau, comme la Jeanne d'Arc le fait classiquement quand elle fait sa tournée des ports du monde avec les diplômés de l'école navale, c'est une espèce de carte de visite du pays. Donc la Colombie était venue présenter sa carte de visite à Marseille à cette occasion. Et donc l'Arc Gloria est resté jusqu'au 8 au soir, le long du quai du Mucem, et puis dans la nuit il est parti pour Barcelone pour laisser la place au Bélème qui se retrouvait le lendemain à cet endroit-là. Alors ce qui m'a ravi moi dans la présence, une part le très bon accueil qu'il y a eu sur ce bateau, c'est un très beau bateau, c'est un trois-mâts de grande taille, il est plus grand que le Bélème d'ailleurs. Ce qui m'a ravi, c'est que dans la semaine précédant la venue de l'Arc Gloria dans les eaux marseillaises, le président de la Colombie avait décidé de rompre les relations diplomatiques de la Colombie avec l'État d'Israël pour cause de génocide. Alors là, j'étais enchanté. Alors bien sûr, la presse n'a pas parlé du bateau, ni même de cet événement politique, mais c'était ça qui avait du sens. C'était ça qui avait du sens. C'est-à-dire que là, il y avait un gouvernement qui manifestait qu'il avait rompu les relations diplomatiques avec Israël dans les eaux territoriales françaises, sous le nez de Macron qui était là. Alors moi, pour moi, c'était un moment de jubilation extrême que mes petits-enfants n'ont pas forcément partagé. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié ce moment-là. Ça méritait d'être dit. Il faut savoir qu'en plus, dans le même temps où la Colombie rompait ses relations diplomatiques avec Israël, elle s'est jointe à la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide, pour dire que maintenant que ça fait 2 mois que cette plainte a été déposée, qu'il y a eu un avis demandant à Israël d'arrêter toutes ces pratiques génocidaires, il ne s'est plus rien passé. C'est-à-dire que malgré les relances de l'Afrique du Sud à deux reprises, malgré cette relance de la Colombie récemment, malgré d'autres relances, la Cour internationale de justice a l'air très très embarrassée parce qu'elle est bien obligée, comme nous tous, comme tout le monde, de se rendre compte qu'Israël n'a pas changé du tout sa façon de traiter le problème palestinien. Je dis ça dans des termes galants. Bon. Et que la Cour internationale de justice devrait normalement, elle est au pied du mur. C'est-à-dire qu'elle est obligée de dire, je vous ai demandé de prendre des mesures pour arrêter, vous n'en avez pris aucune point. Et donc je ne peux, dans ces cas-là, puisque je suis une juridiction qui n'a pas de bras armés, que renvoyer la question au secrétaire général de l'ONU, renvoyer la question à l'Assemblée générale. Voyez, cet État est condamnable, il a fait ceci et cela, il persiste, il s'entête dans son comportement. Maintenant, il faut prendre des mesures. Ces mesures sont possibles. elles peuvent être prises par l'Assemblée générale. On a déjà des précédents. Ça peut être la suspension d'un État de l'Assemblée générale. Ça peut être des sanctions économiques. Donc là, maintenant, on est à un niveau supérieur où le secrétaire général de l'ONU et les membres du Conseil de sécurité, en particulier les États-Unis, sont au pied du mur, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils doivent prendre des mesures, sinon le droit aura été ridiculisé. La Cour internationale de justice aura fait du papier, puis voilà, ça ne sert pas.
Ils peuvent faire le veto quand même, les Américains.
Alors, les Américains font le veto, mais si ça passe à l'Assemblée générale, il y a des conditions de procédure. Il faut 2/3 de voix pour faire prendre des sanctions par l'Assemblée générale, comme suspension d'un État, ça a déjà eu lieu, de l'ONU. Donc là, les États-Unis ne peuvent plus rien faire. Mais il faut encore que, j'allais dire, et je ne suis pas dans sa peau, parce que je pense que la vie doit être difficile à New York pour M. Guterres, qui dise « aujourd'hui, je vais décider de me mettre à dos les États-Unis d'Amérique », je pense qu'il faut un certain souffle, une certaine capacité politique, il ne faut pas se sentir seul. Il ne se sentirait pas seul, il y aurait évidemment la Russie et la Chine qui s'en agrandissent, et la grande majorité des États.
Déjà, il est mal apprécié.
Voilà. C'est quand même lui qui doit prendre cette décision-là. Alors, il a vraiment des éléments pour le faire. Ouais. Quand dans le même temps, et j'en reste à cet aspect juridique des choses, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de sénateurs des États-Unis, je crois qu'ils sont une quinzaine, dont les plus radicaux dans le camp le plus extrême, donc ceux qui sont dans les élus de la Floride, les élus du Texas, etc., chez les Républicains, ont demandé à ce que des sanctions soient prises contre les magistrats de la Cour pénale internationale. Au motif que ces magistrats menacent de s'en prendre à l'État d'Israël. Alors vous rendez compte, vous avez une quinzaine de sénateurs des États-Unis, membres du Parti républicain, donc à ce titre futur soutien ou actuel soutien déjà de Trump dans sa candidature, qui demandent à ce que les États-Unis prennent des sanctions contre un tribunal international pour l'empêcher de travailler. Et là, je m'arrête un peu là-dessus, parce que ça, c'est très, très important. Alors, la faiblesse de la Cour internationale de justice, je l'ai citée, c'est-à-dire qu'elle a une capacité d'exprimer le droit, mais elle n'a pas la possibilité de le faire appliquer. La Cour pénale internationale, elle a cette faiblesse que tout passe par le procureur. Le procureur est saisi de plainte, il reçoit la plainte, et donc ça continue, donc le procès a lieu. Il classe la plainte, le procès est terminé. Ce monsieur, qui est un magistrat d'origine britannique, qui a été conseiller juridique de Madame Elisabeth II, monarque d'Angleterre, qui n'est pas n'importe quel magistrat britannique quand même, se trouve dans la position d'être celui qui va dire oui ou non, le tribunal que je préside va poursuivre l'État d'Israël. Les plaintes, elles y sont déjà, elles sont accumulées. Bon. Alors, il connaissait cette position. Maintenant, il sait qu'il a une partie des sénateurs républicains et certainement une partie de l'appareil d'État États-Unis qui, va lui faire peur, va le menacer de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, il doit être aussi très, très inquiet pour l'avenir de sa procédure et pour sa carrière personnelle. Voilà, je voulais faire le point là-dessus parce que, donc, on a pu avoir un espoir il y a quelques semaines au terme duquel on aurait pensé que les deux juridictions, d'un côté la Cour internationale de justice, de l'autre côté la Cour pénale internationale, allait mettre Israël dans une position d'accusé qui est tellement visible aux yeux du monde entier que ça allait faire bouger les choses. Or, ce à quoi nous assistons au moment où je vous parle, ça peut encore bouger, c'est que ces deux juridictions maintenant prennent peur. La Cour internationale de justice parce qu'elle ne dit plus rien, alors qu'elle est saisie à nouveau par l'Afrique du Sud, par la Colombie, je l'ai dit, de dire « mais maintenant, il faut faire quelque chose ». Vous voyez bien que tout continue comme dès le début, donc elle ne fait rien. Et la Cour pénale internationale, elle est menacée, enfin, son procureur général est menacé de ne pas faire son travail. Voilà. Donc on a une grosse baisse de capacité juridique qui est attaquée par les deux bouts où il était possible de l'attaquer, parce que ni les États-Unis, et surtout pas les États-Unis, ne veulent que les procédures avancent. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que ce tribunal, la Cour pénale, dont ils sont les inventeurs, et l'autre, celui de l'ONU, mettent en accusation le sionisme et leur allié favorisé. Bien. Ça, c'était pour redonner le contexte de ce navire. Ouais. Et puis, voilà. Et puis, il y avait un autre navire qui était là, qui était une goélette, qui s'appelait la Belle Poule, donc il y a un navire école de la Marine nationale, et qui a permis de voir ce que c'est qu'un navire école, comme l'a été le Belém à l'époque du temps où il faisait ce travail-là pour la marine portugaise, et comme le faisait donc l'Arc Gloria pour la marine colombienne. Ce que je voulais décrire ensuite, donc, c'était l'accueil de la flamme dans les quartiers. Parce que la flamme, on l'a vu arriver sur des grands écrans, comme vous avez tous pu la voir sortant du Bélème au fin fond du Vieux-Port. Et puis après, le lendemain, la journée du 9 a été consacrée. Je crois qu'il y avait 8 ou 9 visites de quartier. Alors là, c'était très très intéressant parce qu'on était toujours sur le thème de la gratuité. C'était annoncé dans un quartier. Et donc, c'était très bon enfant. On pouvait aller sur le pas de sa porte, regarder la flamme tranquillement. Il n'y avait pas beaucoup de monde, ce que j'ai vu là où j'étais ou dans d'autres endroits dont j'ai vu. Pas de monde. Mais on était presque en famille. C'était très 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 proche, très 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 personnel. On voyait à côté de soi, à droite, à gauche, les voisins avec qui on se rencontre chez le boulanger ou chez le crémier du coin. Ouais. Et la flamme passait. Alors elle mettait un certain temps parce qu'il y avait évidemment la quantité qu'il fallait de gendarmes, de suiveurs, etc. Mais c'était très gentillé. Donc on avait aussi ce mélange du peuple avec la réalité qui est tout autre, c'est-à-dire avec tout cet argent qui est derrière l'opération olympique, tous ces capitaux qui sont là en jeu, les sponsors, alors la Caisse d'épargne qui est propriétaire du Bélème. Vous imaginez, pour la Caisse d'épargne, c'est un bonheur. C'est-à-dire les 15 jours de traversée depuis donc le Pirée jusqu'à Marseille, ça veut dire que le Bélème a été loué par l'État à la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône pour ces 15 jours, avec le personnel à bord, etc. Bon, donc c'est une belle recette qui est sûre. Il n'y a pas, quel que soit le résultat des Jeux Olympiques, c'est une belle affaire. La Banque Populaire avait un autre sponsoring. Enfin, tout le monde a de quoi se faire de l'argent sur les Jeux Olympiques. Après, au niveau de la facture globale, alors on sait, mais c'est pas propre à Marseille, enfin, j'ai pas les comptes, personne les a aujourd'hui, on sait déjà que les budgets d'aménagement de la région parisienne sont très très largement dépassés, mais c'est, il faut le reconnaître, un classique que les budgets prévisionnels des Jeux Olympiques soient dépassés. C'est pas la première fois que ça arrive, il y a des fois où ça a été vraiment très très dramatique. Bon. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que après ce moment de gratuité dont nous, simples citoyens, avons été bénéficiaires, on a profité de cette gratuité, on était contents, le concert de Soprano était gratuit, la patrouille de France était gratuite, etc. Il y a un moment donné, alors ça se passera peut-être pour l'exercice budgétaire 2025, alors en partie sur les budgets des communes, puisque chaque commune qui accueille la flamme doit payer une participation, et sur le budget de l'État, pour l'organisation générale. À ce moment-là, vous aurez quelque part une source, un rappel d'impôt pour financer le déficit des Jeux Olympiques. Ce sera le déficit public, car les profits privés sont déjà garantis. Ils sont assurés. La logistique CMA, c'est garanti. Le monopole des boissons sur tous les lieux par Coca-Cola, ça, c'est du bénéfice assuré. On ne remet pas de doute. Il n'y a pas de déficit annoncé là-dedans. Ça, c'était la deuxième chose que je voulais dire. Et la dernière, j'allais garder ça, parce que ça, c'est le bouquet. C'est le bouquet et ça mérite d'être dit. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'a été inventé le parcours de la flamme ? Alors, peut-être, vous, certains ont rêvé en disant « Oui, c'est le fameux coureur de marathon qui, annonçant la victoire athénienne, rentre à la maison pour dire « On a gagné », et puis qui, au bout de 42 km de course, s'effondre en disant « On a gagné » et meurt. » C'est ça, la légende de marathon. Bon, ça n'a rien à voir avec les Olympiques. Marathon, c'est une bataille historique dans les guerres médiques contre l'Empire, donc l'Empire perse. Et ce qui s'est passé, c'est que cette flamme olympique qui fait un parcours... C'est une invention. C'est une invention relativement récente. C'est une invention qui date de 1936. Et le premier parcours d'une flamme olympique, à l'image de ce qu'on a pu voir donc, ces derniers jours en France, ça a été les Jeux olympiques de Berlin en 1938. Ouais. Voilà. Donc, le parcours de la flamme olympique, c'est une invention de Goebbels, le chef de la propagande hitlérienne. Et c'est ça dont nous avons hérité. Alors, personne n'en a parlé, mais il faut quand même le resituer. La Grèce n'y est pour rien du tout là-dedans. Ça ne se passait pas du tout comme ça à Olympie. Là, c'est une fabrication. Et c'est une fabrication, en plus, intelligente, j'allais dire, parce qu'en matière de manipulation des foules et de créer un événement complètement inventé, c'est très très fort, j'allais dire. Et il faut en attribuer la paternité à celle qui l'a vraiment. Il s'agit de Leni Riefenstahl. Donc Leni Riefenstahl est une cinéaste allemande nazie, qui était militante du parti nazi, dignitaire du parti nazi, qui a couvert par un film magnifique, par ailleurs, du point de vue de la technique, Les Dieux du Stade, donc sur les Jeux Olympiques de 1936. Et donc on a une création, une espèce d'utilisation de son intelligence, sa capacité technique et artistique à manipuler l'image, de faire passer un message totalement fabriqué en l'honneur du Reich. il faut se souvenir, et là, là je ris aussi dans ma moustache, c'est-à-dire que ce qui a dérangé le plus les nazis qui avaient envahi le stade de Berlin en 1936, c'est la victoire aux 100 mètres de Jesse Owens. Ouais. Catastrophe. Vous avez mis tous les meilleurs athlètes européens possibles, les meilleurs Allemands super entraînés, etc. Et vous avez un monsieur qui arrive, très tranquille, hein, un noir américain, Jesse Owens, qui va se payer le luxe d'avoir 3 médailles d'or devant tout le nazisme affiché et tout. Alors ils vont être obligés un peu d'applaudir, mais du bout des mains, ça les démange. C'est pas possible, c'est une honte. Parce que pour eux, à l'époque, un noir, c'est un sous-homme. Donc un sous-homme qui a battu à Berlin les meilleurs athlètes allemands ou ariens ou européens, c'était très difficile à avaler. Le problème, c'est qu'il avait gagné le 100 mètres, il avait établi le record du monde du 100 mètres à cette occasion-là, qui depuis a été très légèrement amélioré, mais on n'a pas beaucoup progressé. Il avait gagné le saut en longueur et ils avaient fini par gagner le relais 4 fois 100 mètres. C'était trop, 3 fois l'hymne américain avec un noir chaque fois sur le podium. Imaginez le nazi de base et Hitler, je pense, et Goebbels. Pareil, et Leni Riefenstahl obligé de filmer ça parce que ça c'était la vérité. Bon, ça, voilà, je voulais rappeler ça parce que c'est aussi tout ça qu'il y a derrière les événements qui nous ont été présentés à Marseille et qui méritaient d'être vus par ce petit côté de la langue. Il y en a encore que cette histoire-là mérite d'être connue. Je ne sais pas si tu connaissais Clélie.
Non, moi ça j'avais jamais entendu.
Voilà.
Mais je trouve que c'est aussi intéressant peut-être de dire l'impact écologique que ça a aussi cette flamme.
Ah.
J'ai appris que le combustible, c'est des bonbonnes de gaz
qu'ils
sont obligés de changer toutes les 6 minutes.
Je
trouve que c'est assez hypocrite dans une époque où on nous demandait tous de faire des efforts.
Mais bien entendu. Bien. Et effectivement, il s'agit d'une espèce de double cône. Et on revise toutes les 6 minutes, chaque fois qu'on change de relayeur en particulier, une autre bonbonne. C'est du but à gaz, en gros, pour parler la langue de tout le monde. Pour rallumer, c'est exactement comme ça que ça se passe. Oui. Alors, là, pour finir sur le gaz, puisqu'on dit aussi, il faut savoir que le navire porte-container avait cette particularité d'être un navire, je mets écolo, de la quantité de guillemets qu'il faut, puisqu'il est un navire propulsé au gaz naturel liquéfié. Donc, effectivement, c'est dans les techniques actuelles de propulsion des gros navires internationaux, c'est la moins polluante. C'est moins évidemment que le gasoil, c'est moins que d'a été le charbon il y a 100 ans, mais ce n'est pas encore du tout. Le directeur de la CMA, le président de la CMA, qui a été interrogé d'ailleurs au moment de l'inauguration de son centre de formation, qui s'appelle Tangram, T-A-N-G-R-A-M, je vous le donne parce que vous pouvez retrouver des infos là-dessus, a précisé que probablement il arriverait à l'équilibre combustion, enfin, dépense d'énergie et combustion d'énergie vers 2050 avec la quantité de bateaux qu'il a sous le nom, même si il en a des neufs qui sont plutôt dans les nouvelles techniques, mais il y a le passé. Il y a le passé qui est lourd. Mais on n'est pas le troisième armateur mondial avec 3 barques.
Je crois qu'il a un des plus grands bateaux au monde, hein, 300 mètres.
Je crois que ce n'est pas le sien, mais enfin, les plus gros, puisqu'on reste dans la technique portuaire, les plus gros navires porte-containers actuellement en service appartiennent en gros à 3 compagnies. La compagnie Mediterranean Shipping Company, qui est aussi le leader mondial de la croisière, qui appartient à une famille, dont tout le capital est entre les mains de la famille, dont on ne connaît pas les résultats financiers. Il n'y a aucun placement en bourse, aucune action en bourse, ça s'appelle MSC. Le deuxième, c'est Maersk, c'est un armement danois. Et le troisième, c'est la CMA-CGM. Mais les plus gros bateaux à l'heure actuelle sont des bateaux qui font autour de 400-410 mètres de long et sont en capacité de charger 24 à 25 000 containers à chaque voyage. Alors, donc ça donne l'ampleur. Alors, dans un conteneur classique, l'unité de référence, c'est le conteneur qu'on appelle le 20 pieds. Je fais un peu de technique maritime. Et dans un conteneur de 20 pieds sur 2 fois 6 pieds, on peut mettre, en gros, selon la densité, une dizaine de tonnes de marchandises. Donc, imaginez 25 000 conteneurs avec 10 tonnes dans chaque, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de marchandises. Alors, pour l'instant, d'ailleurs, je reviens là-dessus, puis c'est l'actualité aussi, ces bateaux, pour la quasi-totalité d'entre eux, font le tour par le Cap de Bonne-Espérance, puisque la mer Rouge est un peu incertaine.
Voilà.
On n'a pas...
Il
faut quand même le rappeler, même si ça déplaît. Voilà ce que je voulais dire sur cette opération-là, parce que je voulais donner un regard qui n'a pas été forcément dit dans ce que vous avez pu le voir. un vrai plaisir populaire, la gratuité, on nous offre des choses, ben on vient, on est bon enfant, on rit, on est content. Tout s'est très bien passé, effectivement, dans un public qui était, oui, bon enfant, qui venait au spectacle, on lui avait promis un spectacle, il a eu son spectacle et tout, bon, c'était très bien. Et puis derrière, il y a effectivement ceux qui font leur compte, qui sont là avec le tiroir caisse ouvert. Alors je pars comme dans l'ancien temps où il y avait le tiroir caisse, mais alors combien ça va rapporter, combien on a mis, combien ça va, voilà. Ah, et là, le calcul, deux jours de ce bateau qui ne travaille pas, mais ça veut dire six mois de monopole de la logistique des Jeux Olympiques, il n'y a pas de problème, c'est bon. Ouais. On va passer, bon, pour faire une petite rupture, on va passer peut-être la musique que j'avais imaginée. Donc c'est une chanson de Maxime Le Forestier, qui est un jeune, enfin qui était un jeune homme qui se remet un peu à chanter, et c'est une chanson qui a du sens, à mon sens. On va l'écouter.
Allez. Choisis pas ses parents, on choisit pas sa famille. Choisis pas non plus le trottoir de Manille, de Paris, d'Alger, pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs sous. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on va.
À l'endroit où ils naissent.
c'était donc Maxime Le Forestier qui, l'air de rien, dans cette chanson, pose un problème qui n'est pas un problème, en fait, puisqu'il a été réglé intelligemment par un philosophe qui est peu connu parce qu'il est décédé, qui a beaucoup écrit dans un gros livre qui s'appelle, qui est sa thèse doctorale, L'être et le code, c'est-à-dire que tout individu, chacun d'entre nous, est né par hasard à l'endroit où il est né, par hasard dans une famille, riche ou pauvre, le hasard est total. Et en fait, il va se fabriquer en tant qu'individu à travers toute une série de déterminations sociales, selon effectivement le niveau de vie de la famille, le niveau d'éducation, le pays, les budgets sociaux de ce pays-là. Et ça va finir par un être complet, individuel, qui sera particulier, mais qui sera le porteur de toute cette évolution et qui aura acquis tout au long de son expérience historique, de sa vie, son statut. Il sera, alors il est déjà, dès le départ, on le sait, biologiquement indépendant. Mais en fait, ce qui sera fabriqué avec la même biologie dépendra profondément des cadres sociaux dans lesquels il aura effectué son développement. Voilà. Cette chanson ne dit pas autre chose, mais elle le dit d'une façon agréable et intelligente. Et ça permet, en gros, de remettre aussi en place un certain nombre de discours sur les droits de l'homme trop faciles, parce que justement, ils excluent ces considérations sur la réalité de la progression de l'individu là où il est, en fonction du cadre dans lequel il se trouve, politique, social, etc. Voilà. Bien.
C'est vrai.
Chacun d'entre vous peut en tirer son profit. Bien, alors qu'est-ce qui s'est passé aussi ? Alors, dernière chose qui s'est passée, inclus dans le programme de cette journée du 8 mai, très particulière, il y avait organisé par un certain nombre d'amis, dont des amis de Radio Galère, une manifestation statique à la porte d'Aix, donc concernant la commémoration du 8 mai 1945 à Sétif, en Algérie.
Ah oui, oui,
qu'est-ce qui se passe ? Alors, je rappelle les conditions. Qu'est-ce qui se passe le 8 mai 45 ? Ben, la France célèbre la victoire. Et il se trouve que dans le cortège qui évolue à Sétif, donc Sétif, c'est une grande ville de l'Est algérien, plutôt en pays kabyle, disons, on dirait, pour faire simple, donc, où la manifestation commence normalement. Alors, il y a donc là des colons européens, des Algériens, l'armée française et tout. Et il y a à cette occasion des Algériens qui déploient le drapeau algérien. Ça veut dire, donc ils considèrent à ce jour-là, alors que juridiquement ce jour-là ils sont citoyens de la République française, ouais. Ils déploient le drapeau algérien dans une manifestation de la République française. Ça vient pas de rien. Ça vient pas de rien, puisqu'il faut savoir qu'entre 1830, le début de la colonisation de l'Algérie, donc par Charles X, et cette manifestation, il s'écoule donc 115 années pendant lesquelles l'Algérie n'a jamais été totalement calme. Il y avait des réactions de la population, la colonisation d'avoir privé de leurs terres un certain nombre de paysans locaux. Le traitement de l'armée française et des colons n'était pas toujours au-dessus de tout soupçon, je suis gentil. Wow. Et donc, effectivement, il y a eu périodiquement des révoltes contre le colonisateur. Comme il y a dans tous les cas de colonisation, d'ailleurs, l'Algérie ne se particularise pas. Mais il y a eu des cas, des moments très très forts. En particulier, il y a une révolte qu'on appelle la révolte arabe de 1870, qui est célébrée dans un grand monument à Marseille qu'on appelle le monument des Mobiles. Alors on célèbre beaucoup de choses, mais si vous faites le tour du monument des Mobiles qui est en haut de la Canebière, vous verrez une pancarte qui évoque la répression de la révolte arabe. Et il y a donc des soldats français qui sont morts en allant tuer des Arabes qui s'étaient révoltés contre le colonisateur. Bon. Ça c'était vrai. Donc ça faisait partie de la mémoire algérienne. Et donc ce qui ressort le 8 mai 45, c'est que ces Algériens qui sont là dans le cortège, ce sont des survivants de la libération de la France. Ce sont des gens qui, quelques jours plus tôt, étaient sous l'uniforme, avaient participé au combat, au débarquement en Provence, en Alsace, etc. Ce sont des combattants, comme il y a eu des combattants sénégalais, comme il y a eu des combattants tchadiens, etc. Bon. Et ce qu'ils disent là, bon, on y est allé, on en est revenu, mais maintenant, on vous rappelle qu'on ne veut plus être une colonie.
Toutes les colonies ont fourni de combattants.
Bien sûr, hein, y compris ton père.
Oui, voilà.
Voilà, et oui. Donc, c'est ça la réalité qu'ils expriment. Et c'est pas plus que ça, mais mettre un drapeau algérien le jour du 8 mai, fête nationale française, au milieu d'une manifestation française, c'était prendre des risques. Les risques étaient effectivement considérables, puisque immédiatement ordre est donné à la troupe, donc aux troupes françaises, de tuer tous les militants algériens, parce qu'il n'y avait pas que les quelques porteurs de drapeaux, ils étaient venus un certain nombre. Et donc il y aura dans les jours qui vont suivre cette manifestation anticolonialiste, très claire, très manifeste et pas violente, entre 30 et 40 000 assassinats d'Algériens.
Ah ouais.
C'est ça. Et on peut considérer, et les
il y a eu historiens... un massacre, c'est
oui,
vrai.
C'est un massacre. Et on peut considérer qu'effectivement, à partir du moment où ce massacre est effectué, la guerre d'indépendance est quasiment sûre. Elle démarra, ça va prendre 9 ans, mais en fait, tout est prêt pour qu'il se constitue une équipe qui va décider, le 1er novembre 1954, de passer à l'action. Là, toutes les conditions sont réunies pour que la guerre de libération nationale ait lieu.
Surtout, il faut dire que l'Algérie, c'était un département français.
Oui, en plus, oui, là, on est le cas. Oui. C'était même pas des colonies, des protectorats comme le Maroc et la Tunisie.
Il y avait des colons.
Alors, les colons, on peut se rappeler, par exemple, qu'il est venu alors des colons qui étaient des volontaires, et puis à un moment donné, il est venu après la guerre de 70 et la défaite du Second Empire, un certain nombre de paysans d'Alsace et du nord de la Lorraine à qui on a dit les Allemands vous ont pris votre terre, vous pouvez aller vous installer en Algérie. Et il y a eu toute une série de phénomènes de ce type-là. Donc c'était donc l'occasion, ce rassemblement donc, qui a eu lieu mercredi qu'à 14h, était significatif, était un rappel de ce passé-là. Et il était aussi une occasion, ce qui a été fait par la même occasion, de parler que la France est encore une puissance coloniale. Et en particulier, j'ai eu beaucoup de plaisir, puisque j'y assistais, j'ai eu beaucoup de plaisir à entendre une délégation de Kanaks. Alors il y a quelques Kanaks, donc c'est la population d'origine de la Nouvelle-Calédonie, qui vivent en France, qui étaient venus et qui étaient en train d'expliquer ce qui justifie la crise qui est en cours à l'heure actuelle en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'au moment où nous étions rassemblés, donc Porte d'Aix, le Parlement français, ils n'en étaient pas du tout à célébrer les Jeux Olympiques, ils étaient en train de voter une loi qui modifie complètement la composition du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, de telle façon que les Kanaks soient définitivement minoritaires sur leur propre terre. Ça veut dire qu'ils pourront demander tous les votes qu'ils voudront, mais on aura amené suffisamment de Français sur place, d'origine haute mais non Kanak, pour que la majorité des votes soit pour le maintien dans la République. Tout est fait pour ça. Je signale qu'à une période, je ne sais pas si ça a été maintenu, mais un fonctionnaire français qui payait sa retraite, la voyait majorée de 100% s'il allait passer ses vieux jours en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Alors voilà comment on fait un corps électoral fabriqué, ex nihilo. C'est une technique.
Je pense aussi les années de présence.
Fait des années que ça négocie. Des années que ça négocie. Le but étant, et ça passait au moment même où Macron faisait le joli cœur avec la CMA, il y avait ça qui était en cours de vote au Parlement français. Il y a aujourd'hui révolte. Et il y a des affrontements, d'après ce que tu me disais, violents, qui ont lieu sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, parce que les Kanaks ont compris, alors que les Kanaks ont tout essayé pour essayer de résoudre pacifiquement le problème, en disant on ne veut pas jeter les autres à la mer, on est chez nous, mais s'ils sont là et qu'ils sont bien, l'important c'est qu'ils nous respectent et qu'ils considèrent que c'est nous qui sommes à l'origine de ce pays. Rien n'est fait par la République française pour que ça se finisse tranquillement. Donc la République française met le feu volontairement, en espérant qu'elle va gagner.
Quelle proportion à peu près
On est à 40-60. On est à peu près à 40-60 pour l'instant. Voilà, c'est ça. Alors, pour la petite histoire aussi, j'ai rencontré récemment un professeur d'histoire et géographie qui me disait, il était professeur au lycée Thiers, qui est un grand lycée de Marseille, qui me disait qu'il avait eu l'occasion, sur la proposition du proviseur, d'aller piocher dans la bibliothèque du lycée, qui est très très abondante, parce que ça prenait tellement de place que le proviseur a dit, écoutez, s'il y a des ouvrages là-dedans qui vous conviennent, prenez-les, gardez-les pour chez vous, parce que moi je vais être obligé de tout mettre à la benne, parce qu'il y en a tellement qui encombrent les rayons. Et ce professeur d'histoire et géographie tenait un livre à la main, il disait, ce livre est de 1920, il est dit que les Kanaks sont en voie de disparition, bientôt il n'y en aura plus. Ça faisait partie du discours de la République. Alors ce discours n'a pas marché, les Kanaks n'ont pas disparu, et ils ont un atout dont ils vont se servir parce qu'ils s'en sont déjà servis, et il faudra qu'ils aient tout notre appui là-dessus, c'est qu'ils ont le soutien des Nations Unies elles-mêmes, de l'ONU. J'explique pourquoi. Au sortir donc de la Deuxième Guerre mondiale, dans la charte de l'ONU, il est prévu de décoloniser les pays qui ne l'ont pas encore été. Puisqu'il se trouve qu'on trouve autour de la table de l'ONU maintenant beaucoup de pays qui sortent d'avoir été colonisés. L'Inde, l'Indonésie, la Chine quelques années plus tard, etc. Bon, donc beaucoup. Et donc l'ONU édicte un règlement en disant que tout pays qui a été colonisé avec un certain nombre de critères a le droit de redevenir, de demander son autodétermination, de dire « je suis indépendant ». Et le critère de base est de dire « il y avait une population locale qui existait depuis longtemps et puis il est arrivé à un moment donné, mais ça peut être 500 ans plus tard, 1000 ans plus tard, des gens qui se sont installés pour coloniser. Mais il y a une population d'origine qui est reconnue, elle est chez elle ». Le cas de la Kanaky est limpide. Les Kanaks, c'est une population des îles qui s'est installée vers 3500 avant Jésus-Christ. Les colons français ne sont arrivés qu'après le Deuxième Empire, enfin à ce moment-là, principalement un peu avant, mais pas beaucoup. Bon. Et donc, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur l'application de ce texte. Et donc, la Nouvelle-Calédonie est considérée comme un territoire à décoloniser. Alors, ça ne veut pas dire que l'ONU donne l'ordre de le décoloniser, mais elle dit, si les habitants d'origine, donc les Kanaks en l'occurrence, demandent à être libres, ils ont le droit de l'être et on les soutiendra.
Alors, comment ça se fait qu'on puisse passer ce type de vote encore maintenant ?
Alors, le problème, c'est que... Le problème, c'est que le vote a eu lieu. Alors, il y a eu trois référendums déjà qui ont eu lieu sur ces bases-là, avec une infériorité déjà numérique des Kanaks qui était acquise, parce qu'il est arrivé pas mal de gens entre-temps. Bon. Et on en était au troisième référendum, donc c'était il y a 2 ans, je crois, 2022, il me semble, où pratiquement les Kanaks sont arrivés, les Kanaks et leurs amis, parce qu'ils ont dans la population nouvelle des gens qui les soutiennent, ils sont arrivés à 48%. Bon. Et donc, à ce moment-là, la position de la France a été de dire « si on va à un quatrième référendum, on perd ». D'où la manipulation actuelle. Il faut effectivement recomposer le corps électoral pour qu'on n'en parle plus définitivement. Bon. Alors, on peut espérer, l'ONU est en droit de se fâcher. Alors, toujours avec cette réserve, est-ce que l'ONU a les capacités de se fâcher ? On peut toujours en douter. Alors, j'insiste là-dessus parce que le cas des autres colonies françaises n'est pas du tout assimilable. C'est-à-dire que ni à La Réunion, où il n'y avait personne, il n'y a pas de population d'origine à La Réunion. La Réunion, c'était un caillou désertique, point. Bon, tout le monde est arrivé en même temps. Et dans le cas des Antilles, on a un cas un peu différent, puisqu'il y avait une population locale qui était autochtone, qui était des Indiens caribes, on les appelait comme ça, qui a été exterminée, comme l'ont été les populations amérindiennes, par l'arrivée des maladies des colons européens. En fait, la population est arrivée simultanément avec le planteur et son esclave. Donc les Noirs, je vais dire pour faire simple, les Noirs guadeloupéens ou martiniquais sont arrivés en même temps que leur patron, hein, puisqu'il est arrivé à la fois le patron et l'esclave. Ouais. Donc le texte de l'ONU ne s'applique pas. Les Noirs qui sont à la Martinique ne viennent pas de là, et c'est pas leur pays. Hein. Ouais. Et donc le seul cas qui s'applique à la République française, il y a une dizaine de territoires comme ça dans le monde, dont l'ONU devrait exiger la décolonisation une bonne fois pour toutes. La France fera tout pour y échapper.
Les nationalistes corses.
Voilà.
Alors c'est un problème.
C'est encore plus compliqué. Non mais c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a toujours eu des allers-retours de là-bas.
Oui.
Voilà, donc ce point, donc là, effectivement, la situation dégénère en Nouvelle-Calédonie, c'était inévitable, et on a bien compris que Macron et son équipe avaient décidé de passer en force, et donc passer en force, ça veut dire que malgré le souci des Kanaks de ne pas passer à la lutte armée, je ne vois pas trop ce qui va leur rester, sauf si effectivement il y a une position internationale forte portée par l'ONU, défendue par un certain nombre d'autres pays qui diraient maintenant ça suffit, il faut que les Kanaks puissent s'exprimer et reconquérir leur souveraineté. À aucun moment d'ailleurs, j'ai suivi le plus possible les campagnes des dirigeants Kanak actuels, à aucun moment ils ont dit on met tous les autres à la mer. Ils ont dit on est chez nous, vous avez votre place, on ne vous veut pas de mal, on vous connaît, etc. Mais on est chez nous.
Il y a eu un mélange quand même, oui. Puisqu'il y a une partie déjà qui sont rebaptisés avec les Kanak.
Voilà, tout à fait, oui. Et puis il y a aussi une séparation géographique, puisqu'il y a une partie sud de l'île qui est plutôt occupée par les Blancs et la partie nord qui est plutôt occupé par les Kanaks. Bon, voilà des données qu'il faut connaître. Mais enfin, si on a la volonté de trouver une solution où personne n'assassine l'autre, ça a déjà eu lieu, à cette volonté-là, on peut la faire. Par contre, si on a la volonté de dire les Kanaks, on va les faire taire définitivement, on va effectivement, probablement, à une situation de crise aggravée. Mais là,
Je pense on va vers une crise aggravée. Ah, parce qu'il y a eu beaucoup... des morts.
Là, oui, de toute façon.
Il y a eu beaucoup des usines qui ont été brûlées, il y a eu quand même...
Voilà, donc situation à suivre. Donc ça c'était le contenu, ça c'était un des aspects importants de cette réunion donc, du mercredi après-midi, donc pour commémorer le 8 mai 45. Mmh. Et à cette occasion, on m'avait demandé de prendre la parole et j'ai expliqué qu'en fait, la décolonisation était toujours une affaire de longue haleine qui démarrait, on ne savait pas comment, mais il y avait des motifs et puis un jour, les motifs se mettaient en mouvement et la population les faisait siens. Et donc, ce qui s'est passé, je suis revenu sur la question de l'Afrique qu'on appelle subsaharienne et les colonies françaises, pour dire que, à la différence, alors j'insiste là-dessus, il faut toujours le rappeler, l'Algérie est la seule colonie française qui s'est rendue indépendante par sa propre force, par sa propre lutte armée. Il n'y en a pas eu d'autres. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'au contraire, les autres colonies d'Afrique, donc qu'on appelle subsahariennes, dont on connaît les noms, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., toutes ces colonies-là ont été décolonisées depuis Paris, sans lutte de décolonisation. Exactement. C'est-à-dire qu'au moment où De Gaulle est au pouvoir, il est au pouvoir depuis le 13 mai 1958 en gros, et où il s'aperçoit que de toute façon, la lutte du peuple algérien, il ne pourra pas s'en sortir, il va être obligé de lâcher, il se dit il ne faudrait pas que ça fasse tache et que tout le reste se mette à partir aussi. Tout le reste, c'est donc tout le reste de l'Afrique qui est encore française. Et c'est à ce moment-là que la France octroie l'indépendance à toute une série de pays, en disant, désormais, et ça se passe le 1er janvier 1960, vous êtes indépendant, c'est moi qui ai décidé que vous étiez indépendant. Alors comment on fait dans ce cas-là ? Ben, la recette était très simple, elle a été écrite, je la rappelle, c'était de dire, on a trouvé dans les populations de ces pays-là, quelques jeunes gens, surtout des jeunes gens d'ailleurs, qui avaient été très brillants, qui étaient un peu allés à l'école parce que leur papa était instituteur dans un petit village, etc. Ils avaient fait de belles études et on va trouver quelques dirigeants d'exception qui sont à la tête d'un pays où ils sont quasiment les seuls diplômés de l'enseignement supérieur, où il n'y a pas d'ingénieurs, il n'y a rien du tout. Mais on va trouver un Félix Houphouët-Boigny, médecin. Ouais. On va trouver un Senghor qui a fait normal sup avec Pompidou et tout. Et puis on va leur dire, c'est vous les chefs de ces pays indépendants. Mais il n'y a pas d'indépendance possible, il n'y a pas de classe intellectuelle, il n'y a pas de formateur, il n'y a presque personne. Bon, ça va passer. Et ça va passer tellement bien que de 1960 à 2020, enfin, pratiquement, 60 ans plus tard, on en est encore à peu près là. Pas tout à fait. Et c'est là que l'histoire se rejoue et c'est intéressant. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas aller dire au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il n'y a qu'un monsieur qui est allé aux écoles, comme on dit, à Paris, qui a fait Sciences Po et tout. Il y a des centaines de diplômés, des milliers de diplômés. Il y a des juristes, il y a des ingénieurs, il y a des télécommunications, il y a des tas de gens comme ça. Donc on a une armature et puis on a un peuple qui massivement va à l'école. Et donc, on a affaire à des populations radicalement différentes, pas à des populations d'analphabètes. C'était le cas. Houphouët-Boigny, il était médecin, c'était extraordinaire. Ils étaient peut-être 1 sur 1000 à avoir fait des études. Bon, mais ça a tenu et ça ne tient plus. Et c'est ça qu'il est important de souligner, parce que c'est la période dans laquelle nous sommes entrés. Alors, ils sont entrés les premiers, les trois pays dont on parle assez souvent ici, donc le Mali, le Burkina et le Niger. Le Sénégal, c'est sur une trajectoire un peu inquiétante en même temps. Ouais. Hein, le Tchad, ça va probablement venir. Là, il y a une crise à la suite des présidentielles qui est en train de couver. La République centrafricaine, ça devrait venir. Donc, on a une situation qui est évolutive, mais avec des populations en capacité de réfléchir par elles-mêmes à leur avenir et de choisir leurs alliances. Il ne s'agit pas de dire le Mali, c'est grand, mais le Niger, pays assez grand mais très très peu peuplé, quelques millions d'habitants, n'a pas la capacité de tout faire, de se fabriquer une industrie, une armée, etc. Mais il peut choisir ses amis, ses alliés, négocier avec ses amis ce qu'ils font, ce qu'ils leur demandent de faire et ne pas être soumis, parce que ce qu'on voit, ça s'est passé dans les ruptures, les coups d'État qui ont eu lieu dans les trois pays que je viens de citer. C'est-à-dire qu'on découvre qu'il y a des accords secrets de défense. On découvre que, par exemple, le gouvernement, soi-disant du Mali indépendant, n'a pas le droit de passer un contrat avec une entreprise pour faire des télécommunications, sauf avec Orange. Ça, c'est dans des documents secrets. Il n'a pas le droit de faire intervenir un corps étranger militaire, sauf l'armée française, etc. etc. Tout ça est en train d'éclater sous nos yeux. Et puis, ces données sont emparées, sont en possession d'une population qui a les capacités de réflexion, qui a les capacités d'action. Macron et qui se serre les coudes, bien entendu, par rapport à cette France qui voudrait maintenir ce privilège. Donc c'est ça, en gros, le point que j'ai développé devant les personnes qui étaient rassemblées. Et c'est évidemment des sujets sur lesquels on reviendra.
C'est bien.
Alors, quoi dire de plus encore, ben, parlons quand même très rapidement, de la Palestine. Je l'ai évoqué. D'une part, pour dire que effectivement, là, j'ai évoqué la partie juridique. Donc, les appuis juridiques sur lesquels on a pu compter il y a 2 mois maintenant sont en train de s'affaiblir. Donc, on va en arriver à un rapport de force plus clairement politique. Alors ça se joue déjà au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, puisque vous avez vu qu'il y a un suffrage qui a été émis par l'Assemblée générale disant qu'il fallait que le plus vite possible la Palestine devienne État membre de plein exercice de l'ONU. Alors ça n'est pas passé parce qu'il est resté 9 opposants vindicatifs, alors, à la tête desquels il y a bien entendu...
C'est des petites îles, en fait.
Il y a quand même deux qui font un peu de peine. Parce
il y a eu 143 quand même.
Mais les 9, donc c'est États-Unis, Israël, bon, pas de surprise. Ils défendent leur os, j'allais dire. Hein. Mais il y a aussi la République tchèque et la Hongrie. Ça, on s'en serait passé. Ouais, ça veut dire qu'en Europe, chacun fait à peu près sa soupe. Et puis après, 2 de 4, il reste donc 5 petits pays, des îles du Pacifique, Mauritanie, Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ouais. Enfin, j'en oublie peut-être, ou les îles Marshall. Bon, mais c'est des gens qui votent traditionnellement comme les États-Unis.
Ils sont subventionnés.
Voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire.
Les États-Unis,
donc on n'est pas très très loin d'une réussite. Alors, je signale que la France, quand même, ça c'est assez étonnant, il faut le dire, la France vote pour, c'est-à-dire vote pour l'arrivée de la Palestine. Alors, ce qui reste maintenant à remplir, c'est-à-dire que ce vote-là est proche, mais la reconnaissance de l'État palestinien, c'est autre chose. L'État palestinien pourrait rentrer à l'ONU, peut-être dans les semaines qui viennent, dans les conditions qui auraient été en gros fixées, il resterait la reconnaissance d'un gouvernement palestinien.
Oui.
Et c'est là l'étape la plus importante.
Ouais.
Alors, on y reviendra certainement, mais il faut savoir qu'il s'est tenu 2 réunions importantes entre les représentants de toutes les parties prenantes palestiniennes, l'une à Moscou en mars.
Il y en a une à Damas et une à Pékin
il y a une quinzaine de jours. Les gouvernements concernés, donc le gouvernement syrien, le gouvernement russe et le gouvernement chinois, ont insisté auprès de tous les partis politiques palestiniens, en disant, si vous ne faites pas un gouvernement d'unité nationale, on ne peut pas vous soutenir. Parce qu'il ne faut pas qu'on annonce quelque chose qui ne tiendra pas debout, et des gens qui vont s'entretuer peut-être au pire, bon, qui ne seront pas d'accord sur vous. Et à ce moment-là, il y aura reconnaissance. Et à ce moment-là, le monde est changé. Mais on n'en est pas encore tout à fait là.
La réunion de Damas, il y a eu une union
très
forte, renforcée actuellement.
Alors ça, c'est les événements qu'on suivra attentivement sur Galère tous les mardis des semaines qui viennent, parce qu'on est là à un tournant de l'histoire. Il faut savoir que si effectivement on arrive d'ici quelques semaines à une reconnaissance qu'il y a un gouvernement palestinien, on est en train de tourner pratiquement 100 ans d'histoire de la colonisation en Palestine. Et les décolonisations, c'est jamais simple. Il y a toujours du sang. Et s'il y a du sang, c'est parce que le colonisateur ne s'est pas lâché. Ça, c'est la leçon fondamentale. C'est pas parce que les Palestiniens sont méchants et sont sanguinaires, pas du tout. C'est parce que les colonisateurs, par définition, ça ne s'est pas lâché. Et c'est ça qui... Le bain de sang vient toujours de là. Voilà. Merci.
Ils ne sont pas arrivés, d'ailleurs. Ils essayent de rentrer à Rafah, mais ils n'arrivent pas.
Ils n'arrivent pas parce que la résistance militaire...
La résistance militaire est très forte. Et oui. Actuellement, c'est pour ça. Et puis surtout...
Et puis il y a aussi les soutiens,
les Yéménites.
Il y a un soutien réel. Ouais. Donc on en reparlera. Oui. Merci Clélie, merci à tous les auditeurs et à mardi prochain.